Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
18h04 sur Radio Campus Angers, on est très en retard, c'est normal, c'est la rentrée. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord du pédalo. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve depuis les studios de Radio Campus Angers. Toute l'équipe vous souhaite évidemment une très bonne rentrée, bon courage, bonne chance. Et voilà, on espère que ça va aller aussi bien que l'année dernière, ou mieux, on l'espère. Figurez-vous que pour cette rentrée, le 4 septembre, eh ben, ça tombe pile poil le même jour que la journée mondiale de la santé sexuelle. Et bien justement, on en parle avec Céline Maudet du service de santé universitaire de l'Université d'Angers. Céline Maudet, coordinatrice éducation à la santé. Et donc on reviendra également avec elle sur l'émission du SSU et les enjeux autour de la santé sexuelle. En deuxième partie d'émission, c'est également la rentrée d'Alex. Alex qui nous proposera toute la saison, on l'espère, une chronique sportive dans votre quotidienne d'actualité, une fois par semaine. On parle ce soir avec lui de ce fléau qui a encore touché ce champion de MMA Cyril Gane hier soir, les cambriolages de sportifs de haut niveau. Ajustez votre gilet de sauvetage, le pédalo met les voiles.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Aujourd'hui, c'est donc la journée mondiale de la santé sexuelle et pour en parler avec nous, dans les studios, Céline Maudet, coordinatrice éducation à la santé du service de santé universitaire. Bonsoir.
Bonsoir.
Pour commencer, peut-être qu'on peut redéfinir ensemble ce qu'englobe la santé sexuelle. Donc, selon l'Agence régionale de la santé sexuelle est un état de bien-être physique, émotionnel, mental, tout ça associé donc à la sexualité. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, Céline Maudet-Riouel ? Qu'est-ce que c'est la santé sexuelle ?
En fait, c'est pas simplement gérer sa contraception et l'absence d'IST, c'est aussi s'épanouir pleinement dans sa sexualité. Il y a beaucoup de questionnements chez les jeunes autour de leur orientation sexuelle, les pratiques sexuelles, et se sentir bien, en accord avec son corps, en accord avec son partenaire ou ses partenaires, toujours dans le respect du consentement de tous les protagonistes, j'ai envie de vous dire, de ce moment.
Donc évidemment, le service de santé universitaire intervient dans les halls des facultés pour distribuer du matériel de prévention, comme des préservatifs, du lubrifiant, et donc sensibiliser sur la contraception. Mais la santé sexuelle, ça va bien au-delà de tout ça. Comment est-ce que le service de santé universitaire s'empare de ces sujets ?
En fait, en début d'année, on est assez sensible avec notre équipe d'étudiants Relais Santé de parler du risque festif, hein, puisqu'on sait que la rentrée, ça rime souvent avec des événements d'intégration où il peut y avoir des consommations de substances qui peuvent mettre à mal un petit peu le respect du corps et l'intimité de chacun. L'idée, c'est de promouvoir à travers nos actions comment je peux dire non, comment je peux me protéger, et au cas où il y aurait eu quelque chose qui se passerait, vers qui je peux me tourner pour avoir un accompagnement et une aide.
C'est vrai, cette notion du non, de comment dire non aujourd'hui, elle est de plus en plus importante parce que des fois le non est mal entendu. Comment est-ce qu'on fait pour bien dire non ?
En fait, nous, on a développé, et en particulier l'année dernière avec l'équipe d'étudiants Relais Santé, des jeux où on essaie de mettre en image des situations et à quel moment je peux dire non. Et le non, c'est à tout moment de l'acte sexuel, c'est-à-dire qu'on peut être consentant au début de l'acte et puis au cours de l'acte ou de la proposition du partenaire, ne plus être d'accord. Donc à tout moment, le non peut anéantir le consentement. J'ai envie de vous dire... Des fois, c'est sournois parce que du coup, on se sent sous l'emprise de quelqu'un, on a envie d'être dans la séduction et on n'ose pas dire non à la personne parce qu'on se dit que peut-être elle va mal le prendre. Et c'est des fois, quelquefois compliqué, d'autant plus si on est jeune et que c'est une première relation, d'être suffisamment à l'aise pour le dire ce nom-là. Et nous, on essaie justement de travailler là-dessus avec les jeunes pour que du coup, ils puissent justement être dans cette vie sexuelle épanouie.
Les jeunes, donc les étudiants de l'Université d'Angers.
Oui, enfin voilà, j'englobe. Globalement, c'est quand même des jeunes, les étudiants de l'Université d'Angers. Mais ça ne s'applique pas qu'aux étudiants de l'Université d'Angers. J'ai envie de vous dire, le message qu'on donne là ce soir, c'est aussi pour tous les gens, presque même quel que soit leur âge.
Dans la définition qu'on vient de lire, il y a également la question du bien-être émotionnel et mental. Selon les chiffres de l'Université d'Angers, près d'une personne sur cinq membres de l'UA déclare avoir été victime de violences ou de discrimination. Évidemment, on ne parle pas à chaque fois de violences sexistes et sexuelles, mais est-ce que vous avez senti, vous, SSU, avoir été particulièrement sollicité sur ces questions-là ?
Bah, je pense que la création de la cellule au sein de l'université fait que du coup c'est un petit peu plus connu. Il y a une campagne de communication au moment des réunions de rentrée qui est importante de la part de l'Université d'Angers pour sensibiliser justement à ces violences, ces discriminations et ce harcèlement, que ce soit dans la cellule interne à l'université, mais aussi peut-être à l'extérieur, et comment du coup on peut prendre conscience qu'il y a des choses qui ne se font pas et ce qu'on pourrait imaginer comme étant un geste de bienveillance peut être pris comme comme un harcèlement de la part de la personne qui reçoit cette main sur l'épaule ou ce geste qui peut avoir un autre sens pour la personne.
Donc en fait, l'agression sexuelle ou le harcèlement sexuel peut intervenir même quand l'agresseur n'est pas conscient d'avoir commis une agression ?
Oui, je pense que quelquefois, il y a des gens qui ne prennent pas la mesure des gestes qu'ils font. Et je pense que c'est important que les gens qui sont autour de la communauté puissent alerter la personne, puissent alerter en faisant prendre conscience et en étant témoin de ces gestes. Voilà. Après, c'est pas tous les jours, mais je pense qu'il faut qu'on soit tous, à notre échelle, sensibles à ça.
C'est des enjeux qui sont évidemment plus qu'importants, qui sont essentiels. On l'a bien vu l'année dernière avec cette sanction disciplinaire à l'encontre d'un étudiant en médecine soupçonné d'agression sexuelle à l'occasion d'une soirée festive organisée par son BDE. Les violences sexuelles sont partout et tout le temps. Est-ce que vous auriez un message de prévention à l'attention des personnes pouvant être témoins ou victimes de ce genre d'agression? Comment est-ce qu'on réagit alors qu'on est dans le cadre universitaire? Est-ce qu'on réagit de la même manière que quand on est hors du cadre universitaire?
Non, c'est la même attitude. Je pense que qu'on soit victime ou qu'on soit témoin, il faut briser un petit peu le tabou et le silence autour de ça. À partir du moment où il y a quelque chose qui n'est pas correct sur le plan du consentement, ou il faut le dénoncer, qu'on soit témoin ou qu'on soit victime. Je pense que ça aide aussi les personnes à pouvoir en parler, à pouvoir se faire prendre en charge correctement. Et au sein de l'université, il y a vraiment tout un dispositif qui permet un accompagnement.
On parle beaucoup des 5D, distraire, documenter, diriger, déléguer et dialoguer. Ces 5D-là qui seraient un peu la ligne directrice du comportement à tenir si jamais on est témoin d'agression sexuelle. Est-ce que ça aussi, vous proposez des ateliers ou des interventions dans ce sens-là auprès des étudiants ?
Alors sur les 5D, pas directement, mais je dirais à travers les conseils qu'on prodigue, oui, effectivement, ça pourrait être un axe qu'on mette un petit peu plus en valeur. Et je vous remercie de me parler de ça, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup développé ça. Et peut-être que ça pourrait aider certaines personnes qui se sentent un petit peu démunies par rapport à ce qu'il faut faire sur le moment.
Alors, on les rappelle encore une fois, les 5D, distraire, documenter, diriger, déléguer et dialoguer. Évidemment, toutes les infos sont à retrouver un peu partout sur Internet et notamment sur le site de l'Agence régionale de la santé. Comment est-ce que le service de santé universitaire accompagne les victimes de violences sexuelles ? Et quand on parlait d'ailleurs hors antenne, vous m'avez également dit que vous accompagniez aussi les auteurs de victimes sexuelles, mais qu'en tout cas vous vous occupiez de la santé mentale de toutes les personnes qui peuvent être impactées par ces enjeux autour de cette violence sexuelle et sexiste.
Oui, bien sûr, il y a un dispositif, il y a une cellule en fait, violence, discrimination, harcèlement à l'Université d'Angers, avec des personnes qui sont écoutantes, dont certaines sont des professionnels de la santé, du service de santé universitaire. Et celles qui ne sont pas du service de santé universitaire ont toutes reçu une formation qui leur permet d'accompagner les personnes victimes de violences. Évidemment que si quelqu'un se présente dans le service de santé universitaire parce qu'il a été auteur d'une violence et qui vit ça mal, bien sûr qu'il sera pris en charge comme n'importe quelle personne qui ne se sent pas bien par rapport à un événement.
c'est aussi peut-être difficile à traiter qu'un avocat de la défense qui doit défendre.
On est avant tout des personnels de la santé et j'ai envie de vous dire, nous on se place pas du côté de la justice, on se place du côté de la santé de la personne, qu'elle ait été victime ou qu'elle ait été auteur, il peut y avoir une vraie souffrance derrière et l'équipe de professionnels de la santé, médecins, psychologues, psychiatres éventuellement, si c'était nécessaire, sauront prendre en charge ces personnes sans lien, enfin sans, je dirais, sans connotation judiciaire de voilà, c'est pas notre place en fait.
Alors, si jamais vous êtes témoin ou victime de violences sexistes et sexuelles, je vous rappelle l'adresse mail à contacter si jamais vous voulez rentrer en contact avec la cellule de l'Université d'Angers. C'est cellule.violence@list.unif-angers.fr. De toute façon, cette adresse mail sera évidemment à retrouver sur le site de Radio Campus Angers dès la fin de l'émission. Cette année, une grande campagne de vaccination a été lancée concernant le papillomavirus. Ce virus peut engendrer des cancers du col de l'utérus, mais aussi du pénis, de la vulve et de l'anus. Un vaccin, de la gorge, enfin voilà, de plein d'autres. C'est en tout cas peut déclencher un certain nombre de cancers. Peut-être que Céline Maudet, vous allez pouvoir un peu nous expliquer tous les cancers qui peuvent être induits avec à cause de ce virus. Ce vaccin contre ce virus a été longtemps rejeté parce que recommandé seulement pour les femmes. Depuis 2021, il est recommandé également pour les hommes. Comment est-ce que le SSU se saisit de cette question? Puisque là, on est en plein dans l'actualité. Cette grande campagne de vaccination vient de s'ouvrir pour les classes de 5e, 4e, 3e dans les collèges.
Alors nous, les étudiants qui n'ont pas été vaccinés auparavant et qui sont encore dans les âges où on peut démarrer la vaccination, peuvent bien sûr venir dans le service voir un médecin pour avoir une prescription de ce vaccin et se faire vacciner par notre équipe d'infirmières au sein du SSU, le tout bien sûr gratuitement, comme toutes les propositions de consultation qu'on a dans le service. En dehors de ça, on sensibilise nous aussi sur nos actions sur les sites avec les étudiants Relais Santé. Et on essaie de déconstruire un petit peu toutes les idées reçues qu'on peut avoir avec la vaccination, parce que c'est vrai que les vaccins, là, avec le Covid et tout ça, les gens en ont reçu un certain nombre. Il faut quand même savoir que le papillomavirus, ça fait partie des IST pour lesquels il peut y avoir le virus porté par les mains, et que du coup, même si on utilise un préservatif à chaque rapport sexuel, on peut, dans le cadre des préliminaires, se contaminer par les papillomavirus, dont une partie d'eux peuvent induire un cancer plus tard. Alors, Hugo l'a très bien dit, hein, ça peut être des organes génitaux, mais ça peut être aussi de la gorge. Enfin, il y a des localisations du papillomavirus qui peuvent produire des cancers. Et c'est pour ça que, justement, plus tôt la vaccination intervient avant les premières relations sexuelles, et plus on a de chances d'être protégé contre ces papillomavirus qui donnent le cancer.
Il n'est jamais trop tard pour se faire vacciner, ou il y a un âge limite?
Alors, il y a un âge limite qui est la 20e année chez les filles pour être remboursée, j'ai envie de vous dire. Mais quelqu'un, enfin une jeune fille qui n'aurait pas eu de relation sexuelle et qui à 20 ans voudrait se faire vacciner contre les papillomavirus, il y aurait une possibilité de se faire vacciner. C'est juste le remboursement qui ne serait pas possible.
Parce que ce vaccin n'est valable, enfin il ne serait utile que si jamais nous n'avons pas encore eu de relation sexuelle.
Il faut le faire le plus tôt possible avant sa vie sexuelle ou dans la première année de démarrage de la vie sexuelle, puisqu'en fait le risque, c'est que si ça fait 3 ou 4 années que vous avez des relations sexuelles, vous avez pu être contaminé par le papillomavirus, enfin et du coup l'intérêt de la vaccination devient moindre.
À noter d'ailleurs que seulement 10% des personnes contaminées, enfin seulement, plus de 10% des personnes contaminées développent ensuite des cancers, donc les taux sont vraiment très élevés. Donc il convient de faire attention, notamment en cette journée de la santé sexuelle. On est ensemble encore avec vous, Céline Maudet, du service de santé universitaire de l'Université d'Angers, qu'on pourrait peut-être un peu représenter, notamment parce que vous avez déménagé, je crois, en cette... c'est la deuxième année où vous allez être au niveau de l'arrêt de tram, là, en plein cœur du campus de Belle-Beille.
Oui, alors effectivement, on est dans des tout nouveaux locaux dans lesquels on s'est installé il y a un an et demi au mois de mars. Voilà. On est accolé au bâtiment de la passerelle où il y a déjà le SUIOIP et le service des relations internationales. C'est hyper pratique parce qu'on est au niveau du terminus du tram. Donc là, maintenant, les étudiants, que ce soit du campus de Saint-Serge ou de Santé, peuvent avoir un accès très rapide dans le service. On est ouvert du lundi au vendredi de 8h45 à 17h45 sans interruption entre midi et 2h pour favoriser la possibilité de prendre rendez-vous en dehors de son temps de cours et faciliter l'accès aux consultations qui sont bien sûr toutes gratuites, comprises dans l'inscription à l'université pour tous les étudiants de l'université d'Angers mais aussi des écoles privées qui ont passé convention avec le service. On y retrouve des médecins généralistes, des infirmières, des psychologues, des psychiatres, une conseillère conjugale, un centre de santé sexuelle avec une gynécologue, une diététicienne, un médecin avec une spécialité nutrition, un autre avec une spécialité sport, un service social.
Très complet.
Et puis voilà, c'est très complet. On propose aussi depuis la crise Covid un certain nombre de prises en charge sur la gestion du stress et la souffrance psychique avec des ateliers de méditation pleine conscience, des ateliers Corsa qui est une technique canadienne pour gérer le stress. On a des séances de sophrologie, enfin des choses qui permettent aussi aux étudiants de s'emparer du stress avec d'autres modalités que des médicaments ou voilà.
Pour toujours augmenter le bien-être des étudiants au cours de leurs études.
Oui, et puis on a développé aussi depuis quelques années une formation de secouriste en santé mentale pour que les étudiants puissent repérer très tôt les souffrances psychiques chez leurs collègues. Cette formation de 2 jours est diplômante pour les étudiants et permet de devenir secouriste en santé mentale, un peu la version comme le PSC1 pour les secours physiques, mais version santé psychique.
Et toutes les infos, évidemment, sur le site internet de l'Université d'Angers. Je sais que vous fonctionnez beaucoup avec des étudiants relais santé, que vous recrutez chaque année, à chaque rentrée. Là, ça y est, le recrutement est terminé.
Oui, tout à fait. Ils sont même formés. Ils sont donc 12 à l'Université d'Angers et ils vont vous accompagner tout au long de votre année universitaire sur les campus pour vous donner plein de petits tips intéressants.
Voilà, et distribuer donc tout le matériel de prévention comme les bouchons d'oreilles et les préservatifs notamment, mais pas que. Eh bien écoutez, merci beaucoup Céline Maudet d'avoir répondu à nos questions sur les ondes de Radio Campus Angers. Le service de santé universitaire est ouvert donc du lundi au vendredi de 8h45 à 17h45 sans interruption. Donc le midi, vous pouvez y aller. Toutes les infos sur le site internet de l'Université d'Angers, onglet Ville et Campus. Et je crois que vous avez même une page Instagram avec quelques petits messages de prévention. Une page Instagram qui est tenue par les étudiants relais santé.
Oui, ERSSSUUA.
Voilà, toutes les infos sur les internets. On ne vous apprend plus rien. Merci beaucoup Céline Maudet d'avoir répondu à nos questions. Et nous, on se laisse en musique avec Hyper Jacuzzi, un groupe qui commence vraiment à percer de jazz un peu électro, même plutôt électro, un peu jazz, qu'on a pu entendre au festival La Felicita le week-end dernier à Brissac-Quincé et que vous pourrez réentendre le 30 septembre à l'occasion de la BAM au Shabada. On écoute Hyper Jacuzzi et leur morceau Acide sur les ondes du 103 FM. On revient tout de suite. We'll be right back. Hyper Jacuzzi sur les ondes de Radio Campus Angers. On vient d'écouter leur morceau Acide. Voilà un nouveau groupe qui va percer bientôt, j'en suis sûr. En tout cas, nous, à Radio Campus, on est relativement fans.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Et avec nous dans les studios, Alex. Salut Alex.
Bonjour Hugo.
Tu vas bien ?
Très bien, merci.
Première chronique avec nous sur Radio Campus Angers.
C'est ça.
Même tout court, t'en as jamais fait avant ?
Non, grande première.
Ok, ça va, on se sent bien ?
On se sent bien, un peu stressé, mais tout va bien.
Évidemment. Ceci étant dit, on va parler d'un sujet passionnant. Donc, chers auditeurs et auditrices, accrochez-vous parce que tu vas nous parler d'une histoire qui mêle le sport avec ce que tu appelles un des fléaux de notre époque, beaucoup d'emphase, les cambriolages. Bon, c'est vrai que c'est un vrai problème. Tu souhaites plus précisément évoquer les cambriolages dont peuvent être victimes les joueurs de football.
Et oui, en effet, nous avons appris en fin de semaine dernière grâce au journal Ouest France que l'attaquant du SCO d'Angers, Adrien Hunou, ancien du Stade Rennais notamment, avait été victime d'un cambriolage à son domicile situé en plein centre-ville d'Angers. Le joueur se trouvait à ce moment-là à 552 km de son logement. Il était en effet avec le reste de son équipe en déplacement sur la pelouse de Dunkerque. Une victoire 1-0 du SCO qui a mis du temps à se dessiner entre parenthèses, un but sur pénalty à la 95e. C'est donc à son retour du nord de la France qu'il a eu connaissance de cette mauvaise surprise.
Donc bilan du préjudice, plus de 5000 euros. Hein.
Voilà, une montre de luxe à plus de 5000 euros a été dérobée. Les malfaiteurs ont également volé des vêtements de luxe du joueur. Heureusement, personne ne se trouvait dans l'appartement à ce moment-là. Ce n'est évidemment pas la première fois qu'un footballeur se retrouve victime d'un cambriolage. Adrien n'est pas le premier.
Il ne sera Adrien Hunou, hein, c'est maintenant les joueurs de foot, on les appelle par leur prénom, c'est un copain.
C'est ça, voilà. Oui. Je ne le connais pas personnellement, mais oui, Adrien Hunou n'est pas le premier, il ne sera certainement pas le dernier non plus. D'ailleurs, un article de France Info a paru le 21 juillet dernier démontre...
cette fâcheuse tendance.
Voilà, en France. Dans cet article, on apprend par exemple que les footballeurs sont de plus en plus visés par des vols à leur domicile. On apprend encore grâce au journal que 22 joueurs professionnels ont été victimes de vols en France en 2021. C'est 9 de plus qu'en 2020. Le dernier cambriolage marquant d'un joueur évoluant en France date de cet été. Je parle bien sûr de Donnarumma, le portier italien du PSG, qui a subi un cambriolage violent en présence de sa compagne. Ils s'étaient retrouvés en effet tous les deux ligotés puis menacés par une arme à feu. Le gardien a même été légèrement blessé à la tête. Pour rappel, les voleurs étaient repartis avec un butin important, non chiffré encore à cette heure. Là encore, on retrouve dans les objets les plus volés des bijoux, sacs et montres de luxe. Le club de la capitale est souvent la cible de cambriolages ces dernières années. On peut citer les joueurs suivants comme Marquinhos, le capitaine, Thiago Silva, André Di Maria, Mauro Icardi ou encore le Camerounais Éric-Maxime Choupo-Moting. Il ne faut pas croire que le Paris Saint-Germain est le seul club français concerné, preuve avec le SCO et donc Adrien Hunou, mais je suis aussi tombé sur un article du Parisien du 5 août 2023, il y a donc un mois de ça, où j'ai appris que deux joueurs du stade de Reims, Valon Berisha et Arber Zeneli, deux internationaux kosovars, avaient été cambriolés le même soir lors d'un match amical. Le vol a eu lieu lorsque les joueurs étaient en train de défendre les couleurs du club contre Lens. Au total, le préjudice s'élève à 350 000 euros. Rien que ça.
C'est quand même une sacrée somme. Hein.
Exactement.
Proportionnel, ceci étant dit, à leur niveau de revenu.
Oui, bon, tout à fait.
Ouais, si ils étaient chez moi, ils ne pouvaient pas voler 3500.
Ah bah, chez moi non plus. voilà, donc je décide d'évoquer le sujet ce soir avec toi Hugo, car c'est tout simplement un phénomène de plus en plus inquiétant et surtout de plus en plus violent. Les auteurs n'hésitent pas à agresser physiquement leurs victimes. On l'a vu avec Donnarumma, c'est devenu la peur numéro un, pratiquement la peur numéro un des footballeurs, se faire cambrioler pendant un match. Je tiens aussi à préciser que ce problème n'est pas franco-français, hein. D'autres pays sont bien évidemment concernés. Il y aurait quand même en France chaque année à peu près 370 000 cambriolages dans le pays, un chiffre qui est en hausse, hein, qui est en constante augmentation. Cela me fait poser une question, je me dis mais comment est-ce possible que les cambrioleurs, qui ne sont pas des amateurs, ce sont des groupes très organisés, savent exactement où habitent les joueurs. Y a-t-il une taupe dans les clubs ? Ou alors du côté de l'entourage, des proches. Enfin voilà, pourquoi sont-ils une proie facile pour les cambrioleurs? C'est vraiment une question...
Après, que voilà, c'est peut-être dans le voisinage, les gens le savent, et puis ça parle, et puis ça discute, et finalement, les gens le savent, quoi.
Et puis avec les réseaux sociaux, ça va devenir plus facile. Ouais, tout à fait, voilà. Allez, pour en revenir au SCO d'Angers et à Adrien Hunou, nous souhaitons aux joueurs en juin de se remettre au plus vite de cette mésaventure et d'être de nouveau performants sur le terrain, afin d'aider le club à retrouver l'élite du foot français, la Ligue 1. En tout cas, ça part bien, parce qu'ils ont gagné 2-0 contre le Paris FC.
Oui, ça part bien. Reste à voir.
Sur les deux derniers matchs, il y a deux victoires.
Une saison est encore longue. La dernière victoire a été quand même plutôt convaincante, mais celle d'avant était plutôt poussive. Évidemment, on encourage les joueurs du SCO d'Angers et on n'oublie pas les Girondins de Bordeaux. Allez Bordeaux. Allez. Sur ce, ça a été une très bonne chronique. Merci beaucoup. Alex.
Ben, merci à toi Hugo. Merci.
Et puis on se retrouve très bientôt.
À très bientôt. Ouais.
Donc là, c'est vraiment la fin du pédalo, parce que le pédalo termine sa traversée, sa première traversée de la saison sur les ondes du 103 FM. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve dès demain pour parler des accroche-cœurs avec Nicolas Dufetel. D'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.